Le journal présenté par Maxime Fayol.
Bonsoir à tous. L'acte 11 des Gilets jaunes se termine ce soir un peu partout en France. À Paris, si les cortèges se terminent, ils convergent vers la place de la République pour la première nuit jaune. Une initiative pour donner un nouveau souffle au mouvement. On retrouvera Marjorie Péjac sur place. L'ONU se divise sur la question vénézuélienne. Le Conseil de sécurité est le témoin d'une opposition Russie-États-Unis sur ce dossier. Une question qui n'est pas si simple non plus à l'intérieur même de l'Union européenne, nous dira Pierre Benazet. Les journées mondiales de la jeunesse se terminent demain au Panama. Aujourd'hui, le pape François a fait de nouvelles déclarations sur les scandales sexuels qui touchent l'Église depuis de plusieurs années. Les explications de Mathilde Imberti. Et nous terminerons par les hommages nombreux à Michel Legrand. Le compositeur français est mort cette nuit à l'âge de 86 ans. La réaction d'un autre compositeur célèbre, Vladimir Kosma. Les Gilets jaunes en sont donc à leur 11e samedi consécutif de manifestation. Un 11e acte qui rassemble 22 000 personnes dans les rues un peu partout en France, selon les chiffres donnés à 14h par le ministère de l'Intérieur. À Paris, 2500 personnes ont été dénombrées à travers 4 cortèges. Ils sont d'ailleurs en train de converger vers la place de la République. Bonsoir Marjorie Péjac.
Bonsoir.
En direct de cette place de la République à Paris pour France Culture, une place qui commence petit à petit à se remplir.
Oui, quelques centaines de gilets jaunes en ce moment sur cette place de la République et les forces de l'ordre sont bien présentes pour encadrer le rassemblement. Plusieurs dizaines de camions de policiers et CRS. Il y a aussi un camion à eau anti-émeute et un hélicoptère qui fait des rondes au-dessus de la place. Alors la question c'est, est-ce que beaucoup de gilets jaunes vont pouvoir continuer à rejoindre ce rond-point géant qui est devenu la place de la République? Pas sûr, car les forces de police ont commencé à bloquer plusieurs accès afin d'éviter que les manifestants à Bastille, où il y a eu quelques débordements, convergent ici.
Alors ces gilets jaunes, s'ils se réunissent sur cette place de la République, Marjorie, c'est en vue de cette nuit jaune et c'est une première du genre?
Alors non, c'est pas une première du genre. Mais alors tout d'abord, le choix de la place de la République, c'est parce que c'est un symbole fort. Les gilets jaunes présents disent être attachés aux valeurs de la République et l'objectif, c'est surtout de ne pas la casser. L'idée, c'est que la mobilisation prenne une autre forme que les manifestations dans les rues. L'organisateur du rassemblement, Paul-Thierry Valette, me disait, avec Nuit Jaune, le mouvement change de visage, de forme. Dans les cortèges, les gens marchent, ils n'ont pas le temps de dialoguer. Là, il s'agit de discuter et bien sûr, dans le calme. Sur le principe, cette nuit jaune s'inspire du mouvement Nuit Debout, qui en 2016 avait aussi élu domicile sur cette place de la République. C'était au moment de la contestation de la loi travail. Là, les gilets jaunes ne passeront peut-être pas toute la nuit sur la place. Le rassemblement est déclaré jusqu'à 22h. Mais certains disent déjà que si tout se passe dans le calme, eh bien, pourquoi pas rester à discuter plus tard.
Marjorie Péjac pour France Culture. Place de la République à Paris, un 11e acte où l'on a signalé quelques échauffourées. Et place de la Bastille. Donc, au total, 42 personnes ont été interpellées à Paris. La date du Brexit pourrait être repoussée de quelques semaines, annonce la ministre britannique chargée des relations avec le Parlement. Un temps qui permettrait éventuellement aux parlementaires de ratifier un accord de sortie. La ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, estime que cette option pourrait être considérée, même si elle n'est pas une solution en soi. L'ONU se penche aujourd'hui sur la question vénézuélienne, une question épineuse d'un pays à deux tête, Nicolas Maduro d'un côté, Juan Guaido de l'autre. La Russie accuse New York les États-Unis de vouloir faire un coup d'État au Venezuela. Les Américains, eux, estiment que Maduro dirige un État mafieux illégitime selon les termes du secrétaire d'État Mike Pompeo. Pendant ce temps, la France et l'Espagne exigent l'annonce de nouvelles élections sous 8 jours. Sinon, les deux pays reconnaîtront officiellement Juan Guaido comme le président vénézuélien. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir, merci.
En direct de Bruxelles pour France Culture, les Européens qui aimeraient parler d'une seule voix dans ce dossier, mais la tâche est plus ardue qu'il n'y paraît.
Oui, effectivement, ils paraissent aujourd'hui parler d'une voix forte, mais il faut bien dire qu'ils ne sont pas encore parvenus à l'unanimité. Les résolutions dont on parle sont des résolutions d'un groupe de pays. Les représentants à Bruxelles des 28 gouvernements avaient bien réussi hier à ficeler un texte commun, un texte qui était soumis à une approbation tacite des capitales, mais ce texte a été rapidement torpillé par l'Espagne pour qui il manquait d'ambition. Il y a eu en partie hier une sorte d'affrontement idéologique entre d'un côté les partisans d'un renouveau démocratique autour de Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale, et de l'autre côté, ceux qui ont toujours gardé les faveurs, qui ont toujours gardé ces relations privilégiées avec les héritiers du chavisme, avec les héritiers du castrisme aussi, les partisans de Nicolas Maduro. C'était hier essentiellement les gouvernements qui ont des partis de gauche au sein des coalitions. On pense au Portugal et on pense à la Grèce de Monsieur Tsipras. Le Portugal, finalement, semble se rallier à la résolution hispano-germano-britannico-espagnole dans laquelle les Français se trouvent, qui réclame ces nouvelles élections, faute de quoi Juan Guaido serait reconnu président en exercice du Venezuela.
Pierre Benazet, et le Venezuela annonce ce soir qu'il rejette cet ultimatum européen. Au Brésil, les recherches continuent pour trouver d'éventuels survivants après l'effondrement d'un barrage minier dans le sud-est du pays. Près de 300 personnes sont toujours portées disparues. Le barrage ne présentait aucun défaut, précise aujourd'hui la société allemande en charge de vérifier la solidité de cet édifice. Une vérification avait d'ailleurs été faite le 10 janvier sans qu'aucun problème ne soit détecté. Une amende de 58 millions d'euros a été prononcée par les autorités brésiliennes contre le propriétaire de la mine. Le pape François reconnaît aujourd'hui que l'Église catholique est blessée par son péché. Allusion directe au scandale sexuel qui éclabousse l'Église depuis quelque temps. Un pas de plus effectué aujourd'hui par le pape à l'avant-dernier jour des Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ qui se déroulent au Panama. Le thème des abus sexuels est au cœur des préoccupations du Saint-Père, Mathilde Inverti.
Il y a un an tout juste, le pape se rendait au Chili pour un voyage des plus éprouvants. Sur place, il prend la défense d'un évêque accusé d'abus multiples et puis la polémique ayant grossi, une enquête plus tard, il se rend compte que les Chiliens avaient raison d'en vouloir à l'Église. Nous sommes un an après ce fiasco et le pape François a compris qu'il y avait urgence. Au Panama, il multiplie les condamnations des abus, aussi bien hier soir devant les jeunes réunis pour le chemin de croix que ce matin dans un message adressé aux prêtres et séminaristes. L'Église, blessée par son péché, n'a pas su écouter, tranche le pape François. Un message apprécié au JMJ. L'opération vérité est nécessaire mais douloureuse, commente en particulier Joseph Goldschmidt, un prêtre américain de l'état de Virginie qui accompagne un groupe de jeunes au Panama. Il essaye d'animer des groupes de parole dans son diocèse.
C'est un sujet très très lourd. Encore aujourd'hui, certains ont du mal à en parler. Ils sont bouleversés ou ont été victimes directement. Mais le fait que le pape en parle, ça confirme qu'il faut témoigner. C'est si douloureux de savoir que ces abus ont pu exister. C'est vraiment affreux.
Le mois prochain, les évêques du monde entier sont convoqués à Rome pour trouver, espère le Vatican, des solutions concrètes. Un impératif, estime Chris, pèlerin australien.
Si nous ne reconnaissons pas les erreurs de l'institution, on ne pourra pas les surmonter. Il faut dire aussi que l'Église fait déjà un gros travail, mais bien sûr, ça ne fait pas la une.
Le sommet sur la protection des mineurs va être très médiatisé. La pression est terrible et le sujet est au cœur des préoccupations du pape, assure son entourage.
Reportage de Mathilde Imberti au Panama pour France Culture. Emmanuel Macron salue la mémoire d'un inépuisable génie après la disparition cette nuit du compositeur Michel Legrand. Il avait 86 ans. Michel Legrand, artiste mondialement connu, avait notamment remporté 3 Oscars. Les réactions sont très nombreuses ce soir. Elles viennent de toutes parts, notamment de ses amis du show business. Agnès Varda, la femme de Jacques Demy avec qui Legrand a connu de très nombreux succès, s'est dite touchée en plein cœur par la disparition du compositeur. Un jazzman que n'oubliera jamais l'un de ses compères, le compositeur Vladimir Cosma.
C'était un personnage un peu comme un enfant prodige. Ouais, on le voyait à 80 ans s'étonner, s'émerveiller de la vie comme s'il avait 12 ans dans le bon aspect des choses. Donc, c'est pour ça que dans un certain sens, il me semblait complètement réfractaire à l'idée de mourir. Et je trouvais ce matin quand on m'a cette nouvelle, je n'arrivais pas à croire, quoi. Je n'arrivais pas à croire parce que déjà depuis de longues années, il a eu toutes sortes de combats contre la maladie et tout ça, et il s'en sortait toujours. Il avait une telle volonté de vaincre la maladie et de continuer à travailler, à écrire de la musique, à donner des concerts, etc., que je me disais, bon ben, il est là pour toujours.
Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis.
Les marins font de mauvais maris,
mais les marins font de bons amants.
Marins, amis, amants ou maris, les marins sont toujours absents.
Le hasard qui fait d'habitude si bien les choses.
Vladimir Cosma à propos de la disparition de Michel Legrand et France Culture qui continue de rendre hommage au compositeur disparu. Émission Soft Power demain, spéciale consacrée à Michel Legrand et aussi sur franceculture.fr. La météo de demain dimanche, une journée pluvieuse sur la plupart du pays. Ça commencera dès cette nuit sur l'ouest du pays. On s'attend même à des orages de grêle, notamment sur la Bretagne et la Normandie. Ce journal a été réalisé par Caroline Beneteau avec Ludovic Augier à la technique.